Les annonceurs sont de plus en plus à la recherche d'opportunités de se rapprocher émotivement de leur cible. Un des nouveaux moyens consiste à profiter de l'attrait que les YouTubeurs ont auprès de leurs abonnés pour faire briller leurs produits. Point de conversation avec Gabriel Madé du studio Le Slingshot. Bon podcast!
Dans mon job, je travaillais comme analyste média pour le Fonds des médias du Canada.
Okay.
Puis mon travail, c'était de toujours être à l'affût des tendances, d'être en mesure de comprendre les tendances médias pour pouvoir les expliquer puis s'assurer que l'organisme pour lequel je travaillais était toujours bien à jour par rapport à ça. J'ai pu observer que il y avait une industrie qui se dessinait autour de moi, quelque chose qui me passionnait, qui était la culture YouTube, les créateurs YouTube, tout ce qui tourne autour de la création vidéo sur Internet. Puis, j'avais cet intérêt-là. Je me suis mis à en parler beaucoup, à écrire des petits blogs, donner des conférences sur l'industrie qui se dessinait autour des YouTubers. Puis, ça a été remarqué. Il y a Attraction Média qui m'a approché pour mettre en place un projet.
Okay. C'était-tu déjà l'intention de Richard de faire quelque chose dans ce sens-là ou c'est à force de discuter avec toi que vous avez déterminé que c'était le chemin à suivre?
Ben, ça a été vraiment le fruit d'une réflexion. Là, au début, c'est certain que au moment de l'embauche et tout, on savait qu'il y avait quelque chose à faire. On savait que YouTube, avec toutes sortes, on aurait pu prendre plusieurs angles, vraiment.
Ben oui.
On aurait pu décider de travailler puis d'exploiter beaucoup les archives, le catalogue d'attractions là, qui est énorme. On aurait pu travailler vers de la production originale ou vraiment investir en ce sens-là, la plateforme. Mais on a observé qu'il n'y avait personne, il y a 3 ans au Québec, il y avait à peu près personne qui s'occupait des YouTubeurs, qui encadrait des créateurs qui se lançaient par eux-mêmes. On a vu une opportunité là parce que ces créateurs-là, ailleurs dans le monde, dans d'autres marchés un petit peu plus matures, ils étaient encadrés et ils dessinaient une véritable industrie autour d'eux. Donc, on a fait le choix, là, c'est au terme d'une analyse au début, on a fait le choix d'aller dans cette direction-là.
Ça, tous ces YouTubeurs-là, c'est tous des gens qui ont parti de leur propre chef ou il y en a que vous avez, boosté, formé?
C'est tous des gens qui se sont lancés par eux-mêmes et qui ont trouvé le succès par eux-mêmes. C'est très demandant d'être un YouTuber. Ça prend beaucoup, c'est au-delà de mettre 2 ou 3 ou 4 bonnes vidéos en ligne. Là. C'est de sortir du contenu vidéo, idéalement toutes les semaines pendant des années. C'est d'être présent sur Instagram, c'est d'être présent sur Facebook ou sur Twitter. C'est d'être un peu tout le temps actif, puis ça se manufacture pas. Il faut que ça vienne d'une réelle intention, parce qu'être YouTuber, en fait, là, ça a un énorme impact sur leur vie au complet, là, sur leur mode de vie au complet.
Okay. Votre rôle là-dedans, au-delà de la représentation?
Au Slingshot, en fait, on est d'abord et avant tout leurs agents, leurs managers, leur entourage. Nous, on les guide. Notre grande force, c'est qu'on est le côté affaires. On est le côté business.
Mm-hmm.
Puis eux, ils demeurent le côté créatif. Donc, c'est à eux de continuer à créer des vidéos, attirer une audience, discuter avec leur communauté, créer de la photo, créer de l'écrit. Il y en a certains qui sont blogueurs aussi. Toute la responsabilité revient à eux. C'est sûr que quand ils ont des blocages créatifs, par exemple, ou quand ils se questionnent pour trouver la meilleure idée pour tel ou tel projet, on est là s'ils ont besoin de nous. Ça, c'est certain. Ça nous fait plus que plaisir. Mais notre réelle force, le bout de chemin qu'on fait avec eux, c'est vraiment du côté affaires. On les encadre, on les conseille, on regarde avec eux une vision court, moyen, long terme. On négocie en fait beaucoup. On négocie, ils sont beaucoup approchés par toutes sortes d'annonceurs ou d'agences. On fait aussi du démarchage pour eux quand ils ont un projet puis ils souhaitent trouver un partenaire financier. On les encadre vraiment à ce niveau-là. Puis dans le cas de certains, de plus en plus d'entre eux, là, on travaille aussi au-delà des collaborations avec des marques. On travaille des produits dérivés. T'aspires à quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que on a travaillé des livres, une collection d'articles scolaires? Il y a toutes sortes de super beaux projets qui s'en viennent aussi en ce sens-là. Donc, on est vraiment l'entourage. C'est toujours le côté plus admin, le côté plus affaires. Et eux demeurent vraiment toujours les input créatifs.
Êtes-vous plus genre une nouvelle version de ce qui était les agents d'artistes à l'époque ou plus une boîte de production qui, au lieu d'avoir, comme les autres boîtes d'attractions, d'avoir un pool de réalisateurs, vous avez un pool de YouTubeurs?
Je pense que la comparaison avec l'agent d'artiste est peut-être la plus juste.
Oui, hein?
Il y les youtubeurs, la beauté de la chose, c'est qu'ils se sont lancés par eux-mêmes et ils ne dépendent de personne pour créer. Ils n'attendent pas d'être appelés à des castings, d'être choisis par des producteurs ou des réalisateurs. Ils sont leurs propres producteurs, ils sont leurs propres réalisateurs. Fait que la dynamique est comme pas la même. C'est notre job, c'est pas de leur trouver des opportunités de casting. On est la voix de chacun de nos youtubeurs pour tout ce qui peut être projet d'affaires, négociation. Négocier, c'est pas juste négocier des cachets. Négocier, c'est négocier un contexte de travail, comment telle ou telle marque va être intégrée, quel va être le créatif, quand est-ce que ça va être déployé. On est vraiment cette voix-là. Un créateur qui passe pas son temps à gérer ses courriels, c'est un créateur qui crée plus. C'est simple comme ça.
Puis déjà que c'est assez demandant comme ça. Hein?
Oui, oui, oui. C'est, mine de rien, c'est beaucoup. Cynthia Duluth, par exemple, qui publie une vidéo à toutes les semaines, à tous les samedis matin, pour être bien précis, depuis les 8 dernières années, sans exception ou presque, Noël, pas Noël, là, tu sais, elle est assidue, elle est à son affaire, elle va passer par semaine, une vidéo très simple va lui prendre un 10 à 15 heures, une vidéo un peu plus complexe va lui prendre une trentaine d'heures à réaliser par elle-même. Ça, c'est sa vidéo. De 10, 12, 14 minutes. Mmh. Elle fait aussi plusieurs posts Instagram, elle fait un blog, elle entretient ses réseaux, elle répond aux commentaires. C'est beaucoup de travail. Ce dont on s'est rendu compte au début, là, quand on a lancé l'agence, ils sont très seuls là-dedans. Ça fait des médias sociaux. À la fin, le créateur, il est bien seul parce qu'il fait tout. Il a appris par lui-même à monter, à réaliser, à éclairer. Il a appris par lui-même à cadrer, à faire de la photo. Puis à la fin, ça leur fait du bien d'avoir aussi une équipe autour d'eux pour réfléchir les idées, pour les rassurer, pour les motiver.
Absolument. Vos clients, à vous, c'est qui?
Au-delà des youtubeurs?
Oui.
On a beaucoup d'annonceurs, d'annonceurs locaux ou de grands annonceurs mondiaux. On a de tout qui viennent nous voir directement. Puis on a aussi beaucoup, beaucoup d'agences de relations publiques et d'agences publicitaires et d'agences de com de nature là, mm-hmm. qui viennent vers nous, qui viennent vers les youtubeurs ou qui viennent vers le Slingshot pour être conseillés. On sait, le marketing d'influence est en train vraiment de prendre une place de plus en plus importante dans les plans marketing de la plupart des grandes marques. C'est un type de marketing qui n'est pas encore à 100% bien compris par tous. Nous, on le comprend bien, on est experts là-dedans, donc quand un client arrive chez nous, on le conseille en ce sens-là pour vraiment qu'il puisse tirer la meilleure campagne de marketing d'influence possible.
D'après ce que tu vois, en 3 ans, est-ce que la compréhension de, appelons ça, ce nouveau créneau marketing-là est bien comprise, bien utilisée a priori par soit les marques ou les boîtes de communication? Ça s'améliore-tu?
C'est certain qu'il y a une meilleure compréhension année après année après année de ce qu'on fait, de comment on devrait le faire aussi. Au-delà de comprendre que le créateur, il va aller vivre telle expérience pour faire la promotion de tel truc, ça, c'est qui va en faire une vidéo YouTube, là, c'est comme la base, là, tout le monde peut le comprendre, mais d'avoir la compréhension, d'avoir les bons réflexes, de chercher le bon casting. C'est pas vrai que c'est systématiquement les YouTubeurs qui ont le plus d'abonnés qui vont être les meilleurs YouTubeurs pour telle ou telle campagne. T'sais, vraiment, là, on sent que de plus en plus, le marketing d'influence est de mieux en mieux compris. On peut aller plus loin avec nos clients, on peut raffiner nos propositions. Ça, je dirais que c'est certain. En 3 ans, il y a une vraie bonne différence. Par contre, je ne peux pas dire que c'est mission accomplie. Il y a encore beaucoup de travail à faire justement pour faire des plans pour faire des stratégies qui sont plus sophistiquées un peu. Puis ça dépend aussi, là, il y a carrément des... Il y a des clients, et encore, c'est encore régulier chez nous, je dirais, quoi, une fois par semaine au moins, qu'on a un client, une agence, ou peu importe, qui nous dit « c'est ma première campagne, la première fois que je le fais ». Puis c'est bien correct, c'est bien parfait, parce que nous, on aime vraiment ce qu'on fait, puis on est bien content de pouvoir l'expliquer pour qu'il y ait plus de gens qui le comprennent.
Tu disais que les gens arrivaient, que c'est la première fois. Est-ce que vous les accompagnez dans ce cas, dans la planification stratégique? Parce qu'il y a des façons de faire, il y a des règlements. Il y a le Conseil des normes de la pub qui sortait récemment un document sur la divulgation, tous ces petits impératifs légaux-là. Avez-vous un rôle à jouer là-dedans ou c'est le client direct qui doit déjà parler couramment le influenceur?
En fait, pas du tout. Le client ne doit pas déjà savoir ce qu'il veut, comment il veut déployer. On est là pour ça. On est là au niveau stratégique. Si notre client en a besoin définitivement, en fait, ça fait souvent les meilleures campagnes. Quand on part de la base puis on bâtit ensemble. Puis au niveau des normes d'appel, nous, on a collaboré, on a contribué à établir les normes, les lignes directrices sur la divulgation. Mm-hmm. Je pense que c'est tellement important, un document comme ça, pour notre industrie, parce que notre industrie, elle est jeune, puis elle va grandir beaucoup dans les prochaines années. Et c'est important que, comme industrie, on s'établisse des bases, parce que sinon, ça va nuire à tout le monde. C'est important d'être franc avec les abonnés. Toute cette industrie-là tient ben, aux abonnés puis à la confiance qu'ils portent aux créateurs. Puis nous, franchement, avant qu'il y ait les normes qui sortent un papier là-dessus, nous, on avait établi un guide à l'interne. Dès les débuts du Slingshot, ça a toujours été clé pour nous. Puis il n'y a rien de mal, là, je veux dire. C'est tant mieux si un créateur collabore avec telle et telle marque, tant mieux s'il peut vivre de ce qu'il fait sur Internet. Il n'y a rien de mal à ça, au contraire.
Mais non, même en fait, dans cette étude-là, c'était prouvé que les gens appréciaient encore plus le fait que le créateur de contenu, le YouTuber par exemple, ou le blogueur annonce upfront qu'il fait une collaboration de nature économique avec une marque X. C'est pas juste c'est business as usual dans ce temps-là, c'est le pourcentage de l'offre puis de respect augmente.
Oui, absolument.
Y a-t-il de l'inquiétude parfois qu'on voit au niveau des abonnés?
Ben, pas vraiment. Les abonnés, ils s'attachent beaucoup à leurs créateurs préférés, aux créateurs qui suivent. Puis je te dirais qu'au contraire, il y a comme même, c'est même célébré. C'est comme, ah, oh, je suis contente pour toi.
Ah ouais,
hein? Souvent, tu sais, la créatrice va dire, je suis vraiment contente parce que telle marque m'a choisi pour XYZ,
ouais.
c'est perçu quand même très positivement, dans la mesure où il y a un bon fit.
Ouais.
C'est sûr que je sais pas, là, reprenons le thème des créatives beauté, si du jour au lendemain, elle dédie une vidéo de 15 minutes à faire le test d'un nouvel ordinateur, tester les features technologiques, c'est sûr là, que les abonnés vont faire « De quoi tu me parles? »
Mm-hmm.
C'est certain, mais ça, ils font pas ça. Ils sont conscients de leur marque, ils sont conscients de leur axe éditorial, puis ils font pas ça.
Dans la mesure où il y a un dosage, j'imagine?
C'est super important. Mm. C'est la majorité du contenu que nos créateurs créent ben, demande du contenu ben, qui est 100% par eux-mêmes, etc. Là. Ça, c'est clé pour nous. Puis, c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on a comme conseillé nos créateurs à dire « Hey, sais-tu quoi? T'en as beaucoup ce mois-ci. Sais-tu, on s'en tiendrait à ça 2 campagnes ou 3 campagnes. » On va laisser passer celle-là, puis ça reviendra plus tard.
Ah oui.
C'est important pour nous, ça.
Ben oui. C'est important pour eux autres aussi.
Oui.
Un peu comme, tu sais, dans le journal, il y a quand même toujours une espèce d'équilibre entre la zone publicitaire puis la zone rédactionnelle. En radio ou en télé, c'est la même chose. Fait que là, j'imagine que c'est un peu la même chose. C'est le fun d'avoir du contenu... Ben, il ne sera jamais neutre parce que ça va être toujours en fonction de l'intérêt d'une personne, mais à un moment donné, si chacun des posts ou chacun des vidéos est sponsorisé, ça va être écrit à un moment donné.
C'est pas dommage. Puis on le voit là, chez certains autres créateurs, là, ceux qui sont représentés, pas représentés en fait, ou représentés ailleurs. On en voit des fois, puis c'est juste, en fait, le sentiment qu'on en retire, c'est que c'est juste dommage parce que. Si la personne, s'est rendue là, c'est certainement qu'elle a un talent, c'est certainement qu'elle a quelque chose à dire,
ben oui.
Les gens aiment la suivre, mais c'est comme dommage de tout gâcher ça.
Comment tu vois l'évolution de ce marché-là? Vous êtes dedans, pour l'instant, vous êtes concentré au niveau des YouTubers. Est-ce que votre développement passe par l'acquisition, c'est pas fin comme mot, mais c'est ça qui me passe en tête, de nouveaux talents? Est-ce que vous allez aller jouer dans de nouvelles tailles au niveau des blogs, par exemple, au niveau des podcasts?
En fait, très clairement, on est au début de quelque chose. Mm-hmm. Et je pense que c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans d'autres marchés qui sont un petit peu plus légèrement plus matures que le nôtre.
Oui.
Ce qu'on voit, c'est que l'expertise en marketing d'influence, la compréhension profonde, l'expertise et la capacité à déployer des stratégies, je pense que ça va être de plus en plus recherché. On le voit là d'ailleurs, on voit c'est que dans des grands annonceurs ou dans des grandes agences, il y a des postes de VP marketing d'influence, des postes de conseiller principal, c'est vraiment,
oui.
C'est une expertise qui va être de plus en plus recherchée. Du côté des créateurs, ben, tu sais, on dit YouTubeur, là, parce que là, pour le moment, maintenant, c'est la plateforme YouTube qui dominent au niveau de la vidéo, c'est là-dessus qu'ils se sont lancés. Mais je pense qu'il faut aller bien au-delà de cette plateforme-là et de ce nom-là. Je pense que le changement profond, c'est que maintenant, il y a des créateurs sur le web qui se lancent par eux-mêmes et qui, par eux-mêmes, peuvent se bâtir ben, tout un empire, en fait. Et ça va rester. Qu'on les appelle Instagrammeurs ou YouTubeurs ou Twitchers ou peu importe, là, la notion d'individu qui par eux-mêmes se lance et à qui on s'attache et qu'on suit d'un projet à l'autre, d'une plateforme à l'autre, ça va rester. Puis ben ça, c'est notre domaine d'expertise, fait que ben tant mieux. Tant mieux pour nous.
Mais dans votre pool, est-ce que vous avez des Instagrammeurs qui ne YouTube pas?
Jusqu'ici, non. On a tout simplement commencé par,
ouais, je comprends.
Par notre médium chouchou.
C'était ça ma question, à savoir si pour vous, dans votre évolution, vous mettriez l'accent sur de nouveaux secteurs d'activité. Parce que là, dans le produit Slingshot, il est bien clair, ben il n'est peut-être pas clair justement parce que vous êtes-vous corneré dans les coins parce que vous parlez de YouTuber only, mais que dans le fond, comme tu dis, il peut y avoir une trolley de podcasteurs et de blogueurs qui sont pas couverts, qui pourraient offrir d'excellentes opportunités de marketing.
Ben, absolument, absolument. Puis on s'aligne dans cette direction-là, là, définitivement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est des gens qui créent par eux-mêmes, qui sont passionnés de ce qu'ils créent puis qui sont capables de rassembler autour d'eux des communautés. Fait qu'ils le fassent dans le médium podcast ou par écrit ou... On a commencé par la vidéo, parce que c'est ce qui nous semblait le plus intéressant, mais définitivement qu'on élargit actuellement nos horizons.
Et voilà, une autre bonne pointe de conversation de déguster. Pour écouter l'ensemble de nos points de conversation, rendez-vous sur daspidcast.ca. Pour lire les articles issus de ces rencontres, allez sur le Grenier aux Nouvelles en tapant le bit.ly/grenier-miron. À la prochaine!